Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue dans Planète Business, là où l'économie rencontre la responsabilité et où se dessine l'avenir des entreprises africaines. Au Maroc, la RSE n'est plus un simple argument marketing, c'est un passage obligé pour rester compétitif, crédible et utile à la société. Mais derrière les labels, les rapports ESG et les ambitions durables, une question essentielle demeure. La RSE transforme-t-elle réellement l'entreprise marocaine et le quotidien des citoyens? Et pour en savoir plus, nous sommes avec le docteur Yacine Eliatoui, enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et aussi secrétaire général plutôt de Neige Maroc. Toujours un plaisir de vous recevoir, docteur.
Un grand merci pour l'invitation.
Alors, sans plus tarder, dans quelle mesure les entreprises africaines et marocaines en particulier adoptent-elles aujourd'hui des standards RSE reconnus internationalement?
Aujourd'hui, l'adoption des standards internationaux de responsabilité sociétale des entreprises progresse nettement quand même au Maroc, mais de manière très différenciée selon la taille donc des structures. Les grandes entreprises, les sociétés cotées, les groupes intégrés dans des chaînes de valeur mondiales adoptent volontiers les référentiels internationaux tels que le Global Reporting Initiative, le GRI, principale norme mondiale de reporting extra-financier, le SASB, désormais intégré aux normes ISSB qui sont liées aux normes comptables durables, ou encore le Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, qui est un cadre en fait de divulgation des risques liés au climat, ainsi que des nouveaux standards IFRS S1 et S2, qui est dédié aussi à la durabilité et au climat. Et au Maroc, la dynamique est portée par la Bourse de Casablanca et par les obligations aussi croissantes de transparence. Cependant, les petites et moyennes entreprises restent quand même encore en retrait vis-à-vis de cela, principalement faute de moyens humains et techniques. Cela crée une adoption à deux vitesses, mais avec une forte maturité chez les grands groupes et une diffusion aussi progressive dans le tissu économique national.
Et justement, par rapport à ce tissu économique national que vous venez donc d'aborder, quels sont les principaux obstacles pour les PME marocaines qui souhaitent bien évidemment s'engager dans une démarche RSE, qui manque également de ressources, de sensibilisation, de formation ou autre?
Les PME représentent l'essentiel du tissu productif marocain, mais rencontrent des obstacles spécifiques pour structurer une démarche RSE crédible. Tout d'abord, la limitation des ressources financières. Mettre en place un diagnostic RSE, c'est produire un rapport, se faire accompagner ou obtenir une certification qui représente un coût et qui peut être difficile à absorber. Il y a également le manque de compétences internes, parce que la RSE implique de connaissances pointues, le reporting, l'environnement, santé, sécurité au travail, dialogue social, gouvernance ou encore audit. Or, beaucoup de PME n'ont pas de responsable dédié à cela. Et puis, il y a une faible sensibilisation et méconnaissance des bénéfices, parce que de nombreuses PME perçoivent la RSE comme une contrainte ou une obligation administrative, et non comme un levier d'attractivité, de performance et de financement ou de compétitivité. Donc il y a aussi une politique éducative à ce propos. Et puis il y a une absence aussi d'outils simples. Le fait que les références internationaux sont parfois perçues comme trop complexes, les entreprises demandent des outils opérationnels, sectoriels, pragmatiques, et puis en langue aussi accessible. Et puis il y a aussi cette volonté véritablement de plusieurs forces. Le fait que, par exemple, il doit avoir un reporting ESG qui est aujourd'hui exigé pour diverses catégories d'entreprises, les établissements financiers, les entreprises publiques, et cela doit progresser encore plus rapidement en volume et en quantité.
En volume et en quantité, et justement pour les entreprises marocaines, docteur, cotées ou soumises à des obligations de transparence, dans quelle mesure le reporting ESG est-il crédible et efficace face aux défis sociaux?
À ce propos, le reporting ESG est vraiment manière, on va dire, obligatoire dans l'exigence des catégories d'entreprises. Il progresse vraiment rapidement. Maintenant, il faut établir ses forces et ses limites. Au niveau de ses forces, il y a une structuration des rapports selon les normes GRI ou les normes IFRS. Il y a aussi une mobilisation d'indicateurs standardisés comme les émissions de gaz à effet de serre, le taux d'accident, l'éthique, la diversité. Et puis, il doit avoir véritablement une meilleure communication vers les investisseurs et les banques, notamment celles engagées dans la finance durable. durable. Et puis les limites, c'est qu'il y a peu de rapports qui font l'objet d'une assurance indépendante. Par exemple, des audits externes, ce qui limite la crédibilité. Il doit avoir aussi une hétérogénéité des pratiques, parce que certains rapports sont riches et structurés, d'autres restent purement déclaratifs. Et puis, il y a une insuffisance de données sociales fines. La qualité de l'emploi, la rémunération, le dialogue social avec les syndicats. Tout cela doit s'améliorer avec une généralisation de l'audit de durabilité, avec une normalisation des indicateurs et un renforcement du rôle des autorités de régulation.
Des autorités de régulation, comme vous venez de le souligner, il est important également de parler de cette orientation. Justement, comment la transformation digitale des entreprises au Maroc influe-t-elle réellement sur leur performance RSE, notamment en matière de gouvernance, de transparence et de responsabilité sociale plutôt?
Dans la lignée de l'impact Maroc 2030, la transformation digitale constitue aujourd'hui un accélérateur majeur de la performance RSE. Les effets positifs sont déjà liés à la gouvernance, avec des systèmes d'information plus transparents, une meilleure traçabilité et puis une automatisation des contrôles internes. Et doit avoir aussi un lien au reporting, avec une meilleure collecte et une analyse automatisée des données environnementales et sociales. Le Maroc est un modèle au niveau de l'environnement, soulignant cela et suivons cette excellente dynamique qui est une initiative royale. Et puis il y a aussi la responsabilité sociale, le fait qu'il y ait une digitalisation des ressources humaines, la protection des données, l'autonomie accrue des employés et puis ce qui se développe depuis l'après-Covid, c'est aussi le télétravail. Et puis la lutte contre la corruption, le fait qu'il y ait une numérisation des processus d'achat et de facturation, empêche cela. Après, il y a quand même quelques points de vigilance parce que par exemple l'inclusion numérique est encore trop insuffisante vers les PME, un risque d'exclusion des salariés peu qualifiés. On doit augmenter également notre cybersécurité et une protection des données personnelles. Il est impératif à l'horizon 2030. Et puis, il y a un besoin de former les équipes pour éviter une fracture digitale interne parce que la digitalisation crée donc de la transparence et de l'efficacité, mais elle impose quelque chose d'important qui est une gouvernance adaptée.
Une gouvernance adaptée, comme vous venez de le dire, et également par rapport à cela, jusqu'à quel point d'ailleurs l'initiative CGM et son label RSE encouragent-elles un véritable changement de pratique au-delà du simple label pour les entreprises marocaines?
Le label RSE de la CGEM, donc la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, est aujourd'hui l'outil de référence nationale pour évaluer l'engagement social, environnemental et éthique des entreprises. Ce qu'il change réellement, c'est la structuration de la gouvernance interne. C'est la mise en place des politiques des ressources humaines qui sont plus robustes. C'est l'introduction de chartes fournisseurs responsables ou encore l'amélioration de la réputation auprès des partenaires internationaux. Mais ses limites, encore, c'est le fait qu'il touche surtout les grandes entreprises dans l'axe Rabat-Casablanca. Il faut diversifier cela dans l'intégration de notre régionalisation avancée. Et puis, il faut qu'il y ait aussi certaines entreprises qui doivent l'utiliser comme un outil de communication plutôt qu'un levier de transformation profonde. Et puis, il faut aussi que son efficacité dépend d'un suivi renforcé, d'audits indépendants et d'un meilleur accompagnement des PME. Et donc, le label est vraiment un levier important, mais il doit être prolongé par des mesures d'encadrement et de renforcement des capacités pour en avoir un impact véritablement systémique.
Donc, véritablement systémique. Avant de revenir avec notre invité, je rappelle que c'est Dr Yacine El Yatoui, qui est également enseignant-chercheur à Lyon 2, mais aussi secrétaire général des Neiges Maroc. Nous allons suivre cet élément sur l'actualité RSE avant de revenir tout de suite.
Bienvenue pour un tour des dernières actualités RSE dans le monde et en Afrique. D'abord en Europe, où l'Union européenne a ouvert des discussions pour réduire le périmètre de la CSRD, la directive qui impose le reporting extra-financier aux entreprises. Si la réforme est adoptée pour 2026, seules les très grandes entreprises resteront soumises à ces obligations, un allègement notable pour des milliers de PME. Et côté entreprises privées, une belle performance avec Monadoc Paper Mills, qui vient d'obtenir la notation Platinum d'EcoVadis, l'une des références mondiales en matière d'évaluation RSE, récompensant son exemplarité environnementale et sociale. Et puis direction l'Afrique, à Lagos, lors des Seras Africa Sustainability Awards, la NNPC Foundation a été élue Most Responsible Organization in Africa, avec au total 5 prix saluant ses actions de santé publique, d'éducation et de réduction de la pauvreté au Nigeria. Enfin, au Ghana, s'est ouverte la ERA Immobile Conference 2025 à Accra, un rendez-vous majeur pour accélérer la mobilité électrique et les investissements verts sur le continent africain. Pendant que l'Europe redéfinit ses exigences, l'Afrique multiplie les initiatives concrètes qui transforment le quotidien des populations. Une RSE utile, visible et qui monte clairement en puissance.
De retour avec notre invité, monsieur docteur Yadoui, bien évidemment. Alors docteur, quelle place occupe la dimension sociale dans les stratégies RSE au Maroc? Est-elle suffisamment prise en compte ou est-ce surtout l'environnement qui est priorisé?
La dimension sociale qui englobe les conditions de travail, l'inclusion, l'égalité, la sécurité, le salaire ou encore la formation, tend à être moins visible que les actions environnementales qui sont fortement soutenues par les politiques publiques, climatiques et énergétiques. Cependant, depuis l'après-Covid, il y a une prise de conscience croissante qui se manifeste. Tout d'abord, l'accent sur la sécurité au travail, notamment dans l'industrie, les programmes d'insertion des jeunes et de renforcement de l'emploi. Le développement aussi des politiques de diversité et d'égalité femmes-hommes, et puis l'intérêt croissant pour la santé mentale et le bien-être au travail qui est pour l'instant sous-évalué au Maroc. Le social donc reste néanmoins quand même un chantier prioritaire parce qu'il nécessite des indicateurs encore plus précis, des audits plus fréquents et une implication plus forte de partenaires sociaux. Les syndicats ont leur place à jouer dans ce département.
Dans ce département, justement, une dynamique orientée vient évidemment aujourd'hui pour en savoir justement dans quelle mesure l'alliance entre économie sociale et solidaire et RSE est-elle développée et valorisée aujourd'hui au Maroc et quel impact concret cette synergie peut-elle avoir sur le développement local, l'emploi ou l'intégration sociale?
Les entreprises RSE cherchent à créer de l'impact local via des solutions concrètes. L'inclusion, par exemple, de femmes rurales, le recyclage, l'artisanat durable, l'insertion des jeunes ou encore les services de proximité. Et puis les impacts concrets possibles, c'est la création d'emplois locaux durables. Il faut que nos espaces ruraux ne soient pas oubliés dans le développement économique. Pour pas avoir un Maroc utile et un Maroc inutile. Il est important de restructurer cela et de ne pas tomber dans un certain jacobinisme. Et puis, il y a un impact concret aussi qui est possible, c'est le développement d'économies circulaires, le réemploi par exemple, ou encore le renforcement du tissu économique territorial avec nos forces en présence sur nos territoires. Et puis, le Maroc dispose d'un potentiel considérable, mais la synergie ESS-RSE nécessite quand même plus de financement, plus de formation et une réelle intégration dans les marchés publics.
Bien évidemment, quelque chose de concret aujourd'hui. Et dans cette même dynamique concernant également la montée des exigences internationales qui influence bien évidemment l'adoption de la RSE par les entreprises marocaines, cela sert-il principalement à l'export ou y a-t-il un vrai engagement local?
Les exigences internationales jouent un rôle déterminant dans l'accélération de la RSE au Maroc, notamment pour les entreprises exportatrices qui doivent satisfaire à la fois les normes environnementales européennes, les critères ESG qui sont imposés par les donneurs d'ordre et puis les standards de transparence requis par les marchés internationaux. Dans les secteurs du textile, de l'automobile, de l'aéronautique ou encore de l'agroalimentaire, ces critères sont devenus indispensable pour rester compétitif. Cependant, un mouvement parallèle se développe, celui de l'engagement local qui est motivé par à la fois la recherche de performances internes, l'attractivité des talents, l'ancrage territorial ou encore la gestion des risques sociaux et environnementaux. Et donc, la RSE, avec cette analyse globale, n'est donc plus seulement un outil d'export, mais un véritable moteur de modernisation économique interne au Royaume.
Interne au Royaume, aujourd'hui mis dans cette orientation par rapport à ce développement qui est aujourd'hui mis en exergue avec les grandes initiatives nationales comme le plan climat 2030, d'ailleurs, ou la stratégie de développement durable du Maroc. Comment les politiques publiques peuvent-elles encourager et réguler la RSE pour qu'elle devienne, docteur, une norme, pas seulement un avantage pour certaines entreprises?
Des stratégies nationales structurantes comme le plan climat 2030, la stratégie nationale de développement durable ou encore la stratégie nationale de finances durables posent un cadre clair pour faire de la RSE une norme et non un privilège. Les pouvoirs publics peuvent à la fois rendre obligatoire le reporting extra-financier pour un plus grand nombre d'entreprises, offrir des incitations fiscales aux entreprises vertueuses, financer la formation RSE des PME, normaliser les indicateurs et créer une plateforme nationale des données RSE pour avoir de la data aussi qui est pertinente pour la recherche et le développement et pour nos universités et nos chercheurs, et puis encourager les audits sociaux et environnementaux indépendants. C'est donc en fait un état stratège que le Royaume commence à réaliser et qui est véritablement indispensable pour accélérer la diffusion de la RSE dans tout le tissu productif marocain.
Exactement. Alors, docteur, la dernière question qu'on aimerait vous poser, bien évidemment, c'est concernant l'impact. Justement, comment mesurer cet impact réel des démarches RSE au Maroc de façon transparente et crédible ? Quel mérite, bien évidemment, quel indicateur et qui en assure le suivi ?
Pour évaluer l'impact de façon transparente et crédible, il faut des indicateurs mesurables, standardisés et puis vérifiables. Tout d'abord, des indicateurs environnementaux liés aux émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et d'énergie. Le Maroc est continuellement en stress hydrique. Il faut faire vraiment attention à cela. Il y a aussi le taux de recyclage ou encore l'empreinte carbone par produit ou par service. Il y a aussi les indicateurs sociaux liés au taux d'accident du travail, le taux de formation continue, la part des femmes dans les postes à responsabilité et la qualité de l'emploi avec donc la question liée à la rémunération, le dialogue social, la diversité. Et puis enfin, il y a les indicateurs de gouvernance qui sont indépendants des conseils d'administration, qui essayent de réaliser une véritable prévention aussi de la corruption et puis aussi des audits externes. Et puis qui assure le suivi ? Les autorités financières, l'autorité marocaine de marché des capitaux, la bourse de Casablanca, la CGEM aussi via son label, les ministres sectoriels liés à l'environnement ou à l'emploi, et puis les cabinets d'audit et les organismes de certification. En fait, c'est un suivi véritablement indépendant et un alignement sur les standards internationaux qui sont essentiels pour sortir de la communication entre guillemets RSE et aller vers une RSE mesurable, comparable, mais aussi crédible.
Et tout ceci qui montre également qu'au Maroc, la RSE n'est plus un simple argument de marketing, mais aussi un passage obligé pour rester compétitif, crédible et utile à la société. Et ceci à travers la vision royale du roi Mohamed VI. Merci encore à vous, docteur Yacine Etoui.
Un grand merci.
Donc nous avons aujourd'hui, les amis, vu à travers cette émission l'impact de la RSE aujourd'hui au Maroc et aussi l'orientation royale qui dessine les objectifs du royaume en matière de business, de transparence économique et aussi de développement durable. C'était dans votre émission Planète Business. On se retrouve pour un prochain numéro.